Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles au chapitre le plus long de la Bible. Voilà donc, pour ceux qui ne savent pas quel est le chapitre le plus long de la Bible, j'ai entendu des aides qui ont bien soufflé la réponse. Donc, normalement, maintenant, tout le monde a trouvé le psaume 119. Alors, on va commencer notre lecture ce matin au premier verset. Bon, je ne garantis pas qu'on lira jusqu'au verset 176, mais au moins, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 16. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Alors, une première question ce matin. Êtes-vous béni?
Oui.
C'est bien. Ben, est-ce que vous avez remarqué dans les premiers versets de ce psaume? Dieu souligne le fait qu'un aspect de la bénédiction dépend de nous, ou plus exactement, dépend de notre manière de réagir face au désir de Dieu de nous bénir. Alors la semaine dernière, nous avons déjà vu que l'objectif principal du plan du salut, du plan de Dieu, c'est que nous puissions connaître Dieu et vivre en relation avec lui. Jean 17, verset 3, Jésus disait, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est plus que simplement avoir une vie qui ne se termine pas, c'est plus qu'aller au ciel. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est être en relation avec Dieu, avoir cette intimité avec Dieu. Être béni, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais la bénédiction, nous dit le Seigneur, finalement, ce n'est pas un but en soi qu'on doit poursuivre, où on passe notre vie à chercher à être béni. Il dit la bénédiction, c'est le fruit de notre relation avec lui. Si nous vivons en relation avec lui, nous sommes et nous serons bénis à cause de cette relation, cette intimité que nous avons avec lui. C'est lui, donc, que nous devons rechercher plus qu'une simple bénédiction. Alors, il est vrai que grâce au ministère de Jésus, nous sommes bénis. Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ça veut dire donc que si nous mettons notre confiance en Jésus comme notre Sauveur, nous recevons en lui toutes les bénédictions que Dieu désire pour nous. Toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que Dieu nous permet d'hériter en Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas mort simplement pour que nous soyons bénis. Pour que je puisse dire, ah ben je vis dans la bénédiction, qu'est-ce que je suis béni ? 2 Corinthiens 5, verset 19, nous rappelle « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus-Christ est mort principalement pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Pour que nous, pécheurs, comme c'était souligné dans une des prières tout à l'heure, nous puissions être sanctifiés pour que Dieu ne compte plus nos péchés contre nous, mais pour que nous ayons reçu la sainteté de Jésus pour pouvoir être en relation avec notre Père, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. En Jean 14, verset 6, Jésus décrit son ministère en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'objectif, dit Jésus, de mon ministère, c'est de vous permettre de venir au Père, d'être réconcilié avec le Père et donc de vivre en relation avec lui. Et si nous sommes en relation avec lui, forcément, nous sommes bénis. Plus que si nous passons notre vie à chercher une quelconque bénédiction au dépens de chercher Dieu lui-même. Donc, deuxième question, qu'est-ce qui est l'élément le plus important de ma vie? Ou qui est la personne la plus importante de ma vie? Qu'est-ce que je cherche en premier? Qu'est-ce que je cherche principalement dans la vie? Le cœur de Dieu, nous dit la Bible, désire que ce soit lui que nous cherchions avant tout autre. Heureux, dit le psalmiste, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Heureux. Et on a déjà vu à plusieurs reprises, ce mot implique le sens d'être béni. Heureux ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et donc le psalmiste dit dans le verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur. » Béni parce que Dieu a dit que celui qui le cherche, le trouve. Qui se laissera trouver par celui qui le cherche. Donc il nous permettra d'entrer en relation, en communion avec lui. Dans le psaume 63, verset 1er, le roi David souligne le fait que lui y cherchait Dieu avant toute autre chose dans la vie, quand il dit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Quand on se trouve dans un endroit où il fait chaud et où on a soif, tout en nous crie après de l'eau. On veut boire, on veut pouvoir influencer notre corps, apporter à notre corps ce dont il a besoin. Donc c'est la chose principale qu'on veut. David dit, tout en moi crie après toi, tout en moi cherche-toi. Pour ça que ici le psalmiste dit heureux ceux qui le cherchent, pas simplement quand ils n'ont rien d'autre à faire ou Quand ils ont fini tout le reste sur leur liste de choses à faire et il reste encore un peu de temps, ou quand il n'y a rien à la télé ou que la batterie de leur téléphone est morte, il dit « Heureux ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. » Comme David qui dit « C'est comme si mon corps était assoiffé et que tout en moi crie après toi. » Faire les choses de tout notre cœur est un principe important dans la Bible, dans notre relation avec Dieu. Dans Marc chapitre 12, versets 28 à 30, il est dit qu'un des scribes, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre être, de tout ce que nous sommes. Dans Deux Rois, chapitre 23, on a le descriptif de ce qui s'est passé lorsque un de ces rois qui est décrit comme étant un bon roi pour Israël est monté sur le trône. Deux Rois 23, verset 1er. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Ce qui est intéressant quand on lit les livres d'histoire dans l'Ancien Testament concernant les différents rois, c'est les critères de ce qui fait qu'un roi soit un bon roi ou un mauvais roi pour le peuple. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire biblique, on n'a pas du tout le même écho que ce qu'on trouverait dans un livre d'histoire quelconque. Généralement, quand on définit un bon dirigeant, un bon responsable pour un pays, l'histoire s'arrête sur ceux qui ont gagné des victoires militaires ou qui ont apporté la prospérité au pays. Ce qui est intéressant de voir dans les livres, dans les récits concernant les rois bibliques, c'est que parfois ceux qui ont apporté la plus grande prospérité dans leur pays ont juste une toute petite référence et sont classés comme quelqu'un qui était mauvais, qui avait un mauvais cœur devant Dieu. Les prouesses militaires, l'état de l'économie sous son règne est bien secondaire dans la Bible. Ce qui compte pour être classé comme un bon roi, c'est d'avoir un cœur entièrement dévoué à Dieu. C'est d'être un roi qui avant tout cherchait Dieu et encourageait son pays à chercher Dieu plus que toute autre chose. C'est le cas du roi Josias. Lui, il a voulu que le pays entre à nouveau dans cette alliance avec Dieu de tout son cœur et de toute son âme. L'Apocalypse nous montre aussi l'importance d'avoir ce désir de chercher Dieu de tout notre cœur. Pas simplement de donner à Dieu les restes une fois qu'on a fait toute autre chose. Et une fois qu'on s'est occupé de tout ce qui nous intéresse, de dire, bon, bah, il faudrait quand même que je donne un peu de temps à Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 3, on a ces lettres qui sont adressées par le Seigneur aux différentes églises. Et dans Apocalypse 3, verset 14, on a la lettre qui est écrite à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. D'une certaine manière, on pourrait être surpris, n'est-ce pas, que Dieu dit « il faudrait être ou froid ou bouillant ». Souvent, dans nos églises, on a voulu s'accentuer sur le fait que ça veut dire qu'il faut être bouillant pour Dieu, mais à ce moment-là, ce serait le froid que Dieu cracherait de sa bouche. En fait, les historiens et les archéologues nous permettent de comprendre ce que Dieu voulait dire ici à l'église de Laodicée. Ça montre d'ailleurs que Dieu nous connaît personnellement, pertinemment, connaissant les circonstances de nos vies à chacun, parce que les historiens nous disent que la ville de Laodicée était équipée d'un système d'aqueduc très avancé, avec double provision en eau pour la ville. Il y avait une voie pour l'eau froide et une voie pour l'eau chaude. Et on dit que le problème, c'est que parfois, si les choses allaient mal, ben, les eaux se mélangeaient pendant le chemin. Et il fallait toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les deux voies pour que l'eau reste soit froide, soit chaude. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ben, si les eaux se mélangeaient, ben, les gens avaient tendance à cracher cette eau tiède qui n'était ni froid ni chaude. Donc Dieu parle à ces chrétiens de Laodicée qui, eux, savaient très bien quelle était la conséquence de ce mélange entre eau chaude et eau froide, et ils savaient pertinemment qu'eux aussi, ben, si ça arrivait et que l'eau était tiède, ben, ils le crachaient parce que ce n'était pas bon. Dieu leur dit, ben, vous êtes comme cette eau. Vous êtes censés être ce qu'on désire de vous. Quand vous cherchez l'eau froide, vous espérez trouver de l'eau froide. Quand vous cherchez de l'eau chaude, vous espérez trouver de l'eau chaude. Moi, quand je vous appelle pour être mon peuple, pour être un peuple qui m'est dévoué, qui me cherche de tout cœur, c'est ce que j'espère trouver. Je ne veux pas trouver quelque chose qui ne correspond pas à ce que ça dit sur l'étiquette. Si vous portez mon nom et vous dites que vous êtes mon peuple, j'espère trouver parmi vous réellement mon peuple et non pas quelque chose d'entre deux qui soit ni pleinement de ce monde, ni pleinement de mon royaume, mais j'espère trouver un peuple qui m'est dévoué et qui me cherche non pas juste à côté de tout le reste, mais qui me cherche et qui m'aime de tout son cœur. Ça veut dire que si on cherche Dieu de tout notre cœur, il devient la priorité numéro un, la priorité principale dans notre vie, et après on fait les autres choses à côté de cette recherche de la personne de Dieu. Les autres choses ont une importance, mais on consacre premièrement notre temps, nos efforts à chercher Dieu. On ne permet à rien d'autre de passer devant notre désir d'être en relation avec Dieu. On ne permet à rien d'autre de prendre la place que Dieu doit avoir dans notre vie. Que ce soit des choses finalement assez futiles, les réseaux sociaux, la télé, peut-être nos hobbies, peut-être le sport, toutes des choses qui peuvent être légitimes à leur place, mais non pas si on se dit, bon, ben, Seigneur, une fois que j'ai passé 5 heures à scroller sur mon téléphone, ben, je te donnerai quand même 5 minutes avant de me coucher. Parce que bon, je sais que sinon j'aurai mauvaise conscience. Mais qu'on se dit, ben, je donne à Dieu la première place dans ma vie. Si une fois que j'ai passé du temps avec Dieu, on a du temps ensemble avec Dieu de regarder des choses, ce qui d'ailleurs va faire un tri sur ce que je regarde sur mon écran, alors oui, ben, à ce moment-là, pas de souci. Mais ce qui me compte le plus, c'est d'avoir passé du temps avec celui que j'aime de tout mon cœur. Donc, ça peut concerner des choses futiles, ça peut aussi concerner des choses importantes. Notre travail est important, mais n'est pas ce qui nous caractérise. Souvent, on dit, ben, un tel, il est prof, musicien, pharmacien, tout ce qu'on veut, même pasteur, pour ça, il n'y a que le dimanche matin et le mercredi soir à bosser. Mais ce qui nous caractérise, c'est cette relation avec Dieu. Ça, ça doit être la chose la plus importante. Quand on regarde dans le livre des Actes, c'est marqué que les gens qui côtoyaient les croyants, les disciples de Jésus, dans les églises primitives, on ne disait pas, ah ben eux, ils sont une secte juive, ou eux, ils sont des agriculteurs, ou des pêcheurs, ou autre chose. On disait, ah, eux, ils sont des chrétiens, ils sont des gens de Christ. Les gens remarquaient que eux, ils vivaient pour leur relation avec Christ à tel point qu'ils ont dit, ah ben, c'est le peuple de Christ. Parfois, certaines personnes, leur première priorité, c'est faire de l'argent. Après, je peux laisser un peu de temps à Dieu, à condition que j'ai bien gagné ma vie, que je me suis occupé de mes affaires intéressantes. C'est intéressant dans Marc chapitre 10, versets 21 et 22, cette rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Le jeune homme riche, quelque part, il cherchait Dieu, mais pas de tout son cœur. Il était prêt à chercher Dieu à condition que Dieu pouvait venir juste derrière son argent. Il a dit à Jésus, « J'ai obéi à tous les commandements, je veux faire partie du royaume de Dieu, donc je veille sur mon comportement pour obéir aux commandements. » Jésus lui dit, alors, il te manque juste une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il était prêt à chercher Dieu en second. Déjà pas mal. Que Dieu ait la deuxième place dans sa vie. Sauf que Jésus dit, deuxième, ne le fais pas. Il faut être prêt à me mettre à la première place. C'était comme un test que Jésus mettait devant lui. Est-ce que tu dis que tu obéis au commandement? Le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Est-ce que donc tu m'aimes? Moi, plus que tu aimes ton argent. Et le jeune homme est parti tout triste parce qu'il ne pouvait pas dire oui à cette question. Pour certains, ça va être notre famille qui est la plus importante. Et on dit, bon, ben, je m'occuperai de Dieu une fois que j'ai trouvé un mari, une femme, que j'ai des enfants, que mes enfants soient grands, que mes enfants soient mariés, que mes enfants aient des enfants, que mes petits-enfants aient grandi, etc. En Luc 14, verset 26, Jésus dit, « Si quelqu'un vient après moi, sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et puis aussi dans notre lutte contre le péché, on ne le fait pas avec un esprit légaliste juste pour obéir à certaines lois, pour avoir un certain style de vie propre. Nous évitons le péché parce que nous voulons éviter tout ce qui nous éloigne de Dieu. Si on cherche Dieu de tout notre cœur, on ne peut plus et on ne veut plus se permettre de faire des choses qui vont au contraire nous éloigner de sa présence. On ne le fait pas simplement parce qu'il est écrit que, mais parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est en train de nous entraver dans cette recherche de Dieu que nous faisons pourtant de tout notre cœur. Et donc on se dit, s'il faut choisir entre ça et Dieu, ben moi je choisis Dieu. Chercher Dieu de tout notre cœur, nous dit la Bible aussi, implique le fait de passer par Jésus. Si nous voulons chercher Dieu de tout notre cœur, nous devons obligatoirement passer par Jésus. Revenons au verset qu'on a lu tout à l'heure en Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'objectif donc, c'est de venir au Père. Notre priorité principale, c'est de venir au Père. Mais Jésus dit, si vous voulez venir au Père, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous ne pouvez le faire que par moi, en m'acceptant moi. Car Dieu a choisi de se révéler en Jésus et de nous accueillir en Jésus. Jean 6, verset 40 dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Si donc nous cherchons Dieu, Dieu nous dit, je me laisse trouver à celui qui me cherche en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Il est donc essentiel de croire que Jésus est le Fils de Dieu, comme il l'a dit. 1 Jean 4, verset 15, « Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » C'est pour ça que parfois il est assez facile d'avoir des conversations au sujet de Dieu, de dire aux gens qu'il faut venir à Dieu, jusqu'à ce qu'on dit qu'on vienne à Dieu à travers Jésus et qu'il faut plier le genou devant Jésus pour venir jusqu'au Père. Qu'il faut reconnaître Jésus comme le chemin du salut, comme le sauveur. Parfois même quand on dit qu'il faut accepter qu'on ait besoin d'être sauvé en Jésus, qu'on a besoin de ce sauveur parce qu'on est pécheur. Pour d'autres, ça va être le fait de reconnaître Jésus comme Seigneur. On doit croire qu'il est sauveur, qu'il est notre Seigneur. Ce qui veut dire également, puisque le mot croire dans la Bible veut dire non seulement accepter quelque chose intellectuellement, de dire oui, je crois que Jésus-Christ porte le titre de Sauveur et Seigneur. mais qu'on ait une foi qui est pratique. Croire veut dire vivre en conséquence d'une réalité qu'on considère être vraie. Je crois que Jésus est mon sauveur, donc je viens à lui pour recevoir le salut. Je crois que Jésus est mon Seigneur, et donc j'obéis à sa parole. Jean 14, versets 15 à 17, lorsque Jésus parle de l'envoi de son esprit, il dit, si vous m'aimez, et on a déjà vu que le premier commandement, c'est qu'on aime le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et là, on se retrouve dans cette relation qui est l'objectif de notre recherche de Dieu. On cherche de tout notre cœur d'être en relation avec Dieu. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, j'enverrai mon esprit afin qu'il demeure en vous. Une demeure, c'est l'endroit où on habite. Si on demeure avec quelqu'un, nous vivons ensemble. Il y a une relation. Dieu dit, mon esprit demeurera en vous lorsque vous m'aimez et vous obéissez à mes commandements. Il est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus nous montre également quelle est la différence entre le peuple de Dieu et le monde en général. Souvent, si on cherche à décrire la différence, on se focalise sur des comportements. Dans le monde, on fait comme ci, on vit comme cela, et chez le peuple de Dieu, on vit autrement. Cela est vrai, mais Jésus dit, cela n'est qu'une conséquence. Finalement, il dit la différence, c'est que mon esprit demeure en vous. Vous êtes en relation avec moi. Vous vivez dans ma présence. Le monde ne peut pas recevoir mon esprit. Il n'y a point de relation. Mon esprit ne demeure pas dans le monde en général, mais il est en vous. Verset 22, Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. » Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Dieu désire faire sa demeure en nous. Donc oui, le comportement sera différent, mais ce qui est réellement différent entre nous et le monde, c'est la présence de Dieu qui vient habiter en nous et avec nous. Après, forcément, Jésus dit, si vous m'aimez, si vous cherchez ma présence, alors vous allez vivre de manière différente, vous allez obéir à mes commandements. Pas difficile de savoir comment Dieu voudrait qu'on vive. Puisque la Bible nous dit, on l'a vu les deux dimanches précédents, Dieu nous a révélé sa volonté. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Il y avait un auteur célèbre à qui, une fois, quand il parlait de l'importance de ce que Dieu avait révélé dans la Bible, on lui posait la question, mais ça ne te dérange pas toutes les choses qui ne se trouvent pas dans la Bible et toutes les choses qui sont difficiles à comprendre dans la Bible? Il a dit, vous savez, ce qui me dérange nettement plus, c'est tout ce que je comprends dans la Bible. Parce que là, je suis tenu à le vivre, à y obéir. Donc la maturité chrétienne n'est pas la recherche des choses que Dieu nous a cachées. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à faire croire à tout le monde qu'ils sont tellement matures dans le Seigneur parce qu'ils passent leur temps à chercher toutes les choses que Dieu n'a pas révélées. Deutéronome 29, verset 29 nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel. » On peut les lui laisser. Les choses révélées sont à nous. On a déjà plus qu'assez à faire avec tout ce que Dieu nous a révélé. La maturité chrétienne cherche à mettre ce que Dieu nous a révélé en pratique. En Marc chapitre 4, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Prenez garde à ce que vous entendez. » Dieu nous parle, Dieu nous a parlé. Il nous a montré ce qui est bon. Il nous a révélé ce que Dieu demande de nous. Prenez garde à ce que vous entendez. Alors, dernière question ce matin. Est-ce que je peux prier avec sincérité la prière du psalmiste dans le verset 10 du psaume 119? Est-ce que je peux dire avec sincérité, je te cherche de tout mon cœur? Si tel est le cas, je ne peux que vous encourager à persévérer dans ce chemin, car c'est ce que Dieu désire pour nous, c'est ce qu'il veut de notre vie, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, qu'on le cherche de tout notre cœur. Heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le psalmiste dit, « Moi, je te cherche de tout mon cœur. » Si notre réponse à cette dernière question, c'est non, la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que, comme nous avons lu, Dieu est un Dieu bon, lent à la colère, riche en bonté, qui en Jésus-Christ nous offre sa grâce en disant que nous pouvons nous repentir de notre péché. Nous pouvons nous repentir du fait que jusqu'ici, Dieu n'a pas été celui qu'on a recherché de tout notre cœur. Il dit, on t'a fait connaître ce qui est bien et ce que je demande de toi. Est-ce que ce matin nous pouvons répondre et nous allons répondre avec amour envers le Seigneur? Si tu m'aimes, garde mes commandements. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors profitons ce matin encore de la grâce que Dieu nous propose en Jésus-Christ pour recadrer notre vie.